Chapitre 5. La chienne qui n'est pas ta chienne t'attend sous le porche, m'a informé ma logeuse à travers la porte de ma chambre. Il était 9 heures du soir, l'heure de songer à partir au travail. Ma chambre se trouvait à l'arrière d'une maison de 3 étages, vieille de 120 ans, au rez-de-chaussée. Au début, cela m'avait inquiété. J'aurais préféré un appartement au premier ou au deuxième, mais ces logements plus spacieux étaient pris d'assaut et, pour tout dire, pas dans mes moyens. Mais il est apparu que ma logeuse, Frances Bill, était attentive aux questions de sécurité. Elle était née dans cette maison, m'avait-elle expliqué le jour de mon entretien. Une bonne famille de catholiques irlandais, 11 enfants. La moitié des frères et sœurs étaient désormais dispersés à travers divers états, l'autre moitié déjà dans la tombe. Ayant vécu toute sa vie à Cambridge, Frances n'était pas aveugle à ses défauts. La ville universitaire présentait un assortiment éclectique de vieilles demeures majestueuses qui valaient plusieurs millions de dollars et d'immeubles en briques à peine entretenus. On y trouvait d'immenses espaces verts et des petits restaurants de charme pour les familles des jeunes cadres dynamiques, mais aussi des laveries automatiques, des pizzerias et des boutiques de vêtements à la mode pour les étudiants. Certains habitants, comme Frances, appartenaient à des familles installées là depuis des générations, mais la plupart ne faisaient que passer pour un été, un semestre ou un cursus en 4 ans. Moyennant quoi, la ville offrait d'intéressants et solides îlots de sécurité au milieu d'autres quartiers frappés par la petite délinquance, le vagabondage et la débauche alcoolique. Avant de pouvoir louer la chambre, j'avais dû passer un entretien de 2 heures avec Frances pour déterminer à laquelle de ces catégories j'appartenais. Lorsqu'elle eut vérifié que je n'avais ni animal de compagnie, ni petit ami, ni, selon toute vraisemblance, piercing, ma candidature fut jugée recevable. Ma seule exigence fut la pose d'un verrou de sûreté à ma porte, et je demandai la permission d'inspecter tous les systèmes de fermeture des huisseries du rez-de-chaussée. D'abord surprise, Frances sembla heureuse de cette requête, comme si elle prouvait que j'avais la tête sur les épaules tout compte fait. Jamais Frances et moi n'avons davantage parlé qu'au cours de cette entrevue. J'imaginais qu'elle avait été mariée, puisqu'il y avait une photo de mariage sur la cheminée. À côté, il y avait une photo de bébé. Mais Frances ne parlait jamais d'enfant et aucun proche n'était venu à Noël. C'était sans doute suffisamment éloquent. Je me posais des questions, mais jamais à voix haute. D'un commun accord, Frances utilisait la porte principale pour ses allées et venues, tandis que j'accédais à ma chambre par celle qui donnait sur le jardin de derrière. J'essayais de ne pas me montrer envahissante, ce qui n'était pas trop difficile vu que 4 fois par semaine je travaillais de nuit et dormais ensuite jusqu'à midi. Ma chambre était petite, mais j'aimais son parquet en mauvais état, ses 3 mètres de hauteur sous plafond, ses vieilles moulures. Une enseignante m'y avait précédée. Elle avait laissé une bibliothèque Ikea pleine de romans sentimentaux. Voilà à quoi j'occupais mon temps libre. Planqué dans ma chambre, je dévorais des livres de Nora Roberts. Je me disais qu'avec tout ce qui se passait dans ma vie, je méritais de vivre au moins quelques heures par jour où les histoires se terminaient bien. Mais pour l'instant, j'enfilais un gros sweat à capuche gris et j'attrapais mon 22 sous l'oreiller. 1 an plus tôt, je n'avais jamais touché une arme à feu. Je n'aurais pas su distinguer un pistolet d'un revolver, une percussion annulaire d'une percussion centrale, un 22 d'un 357 Magnum. Aujourd'hui, franchement, j'étais un as de la gâchette. Un 22 n'est pas ce qu'on fait de mieux en matière d'armes d'autodéfense. La plupart des gens choisissent ce pistolet pour sa discrétion. Petit et léger, il se transporte facilement. Dans la poche, à la ceinture, ou, m'a-t-on dit, suspendu à une chaîne autour du cou, comme un vrai membre de gang. Quand je sortais, je mettais le mien dans ma sacoche en cuir, puisque le Massachusetts réprouve le port d'armes en public. Mais en privé, la place de mon arme semi-automatique était dans un étui sur ma hanche gauche. En tout cas, il y serait le 21 janvier. Je m'étais souvent, très souvent exercé à dégainer rapidement et à ouvrir le feu. En fait, je m'y exerçais au moins 30 minutes 2 fois par semaine. Mon Taurus semi-automatique était chromé, avec une poignée en bois de rose. Il pesait moins de 350 grammes, tenait confortablement dans la paume de ma main, et j'en étais venu à apprécier le toucher chaleureux du bois sous mes doigts. C'était, si j'ose dire, une arme mignonne. Sans oublier qu'elle était abordable et les munitions peu coûteuses. 1 an plus tôt, je ne me serais pas non plus posé la question. Or, non seulement les armes à feu peuvent être hors de prix, mais les boîtes de munitions aussi. Et que ce soit clair, ce n'est pas parce que je craignais pour ma vie que j'avais pour autant des moyens illimités. J'étais donc devenue une publicité ambulante pour les méthodes permettant d'assurer sa protection à moindre coût. Voilà la vraie raison pour laquelle j'avais un 22 à $200 plutôt qu'une arme qui aurait inspiré beaucoup plus de respect, un Glock 45 à $2000 par exemple. Un jour, JT Dillon, mon moniteur, m'a laissé en essayer un. J'ai cru que le recul allait m'exploser le bras, mais le trou dans la cible valait le coup d'œil. Les types des brigades d'intervention et des commandos de forces spéciales sont souvent équipés de 45. Je me suis demandé ce que ça faisait d'affronter une menace inconnue en se sachant couvert par des copains et en étant armé d'un flingue conçu pour qu'un type comme vous accomplisse ce genre de mission. Depuis 2 semaines, j'essayais d'imaginer le 21 janvier. JT me faisait constamment répéter les mouvements. La visualisation comme technique de préparation. Je suis au milieu de ma jolie petite chambre, le grand lit repoussé contre le mur de gauche, l'étagère Ikea en bois blond derrière moi, la vieille desserte et sa télé 50 cm encore plus vieille à côté de la porte. Assez de place pour bouger, se battre, se défendre. Assez d'espace pour tendre complètement les bras, mon torus pointé à 2 mains, prolongement naturel de mon corps. Mon pistolet est chargé avec des cartouches de compétition 22 long rifle ou LR. Pas un calibre d'une puissance extraordinaire, mais j'ai 9 balles pour réussir mon coup. À chaque séance d'entraînement, JT m'ordonnait de vider mon chargeur. « Ne jamais tergiverser », me répétait-il sans cesse. « Évaluer la menace, prendre sa décision, se défendre coûte que coûte. » Je n'arrivais toujours pas à imaginer le 21 janvier. Je me rappelais surtout les rapports de police. Aucune trace d'effraction, aucune trace de lutte. « Il faut que vous le voyiez arriver », m'avait dit le commandant Warren dans l'après-midi. « Que vous l'accueilliez avec le sourire. » J'ai rangé mon torus dans son étui, enfilé mon gros blouson noir, et je suis partie travailler. La chienne, qui n'était pas ma chienne, m'attendait sur le perron. Le fond de l'étroit terrain de Frances était rendu inaccessible par une clôture en bois d'1,50 m. Autrement, j'étais presque certaine que la chienne m'aurait attendue devant la porte de derrière. Elle était assez futée pour ça. Je l'appelais Tulip. Elle avait commencé à traîner dans le quartier 6 mois plus tôt. Ni collier, ni médaille. Au début, elle se contentait de me suivre dans la rue quand je partais faire mon jogging de l'après-midi. Je me disais qu'elle devait avoir faim, qu'elle espérait une friandise. Mais à l'époque, je ne lui donnais jamais rien. Pas mon chien, pas mon problème. Je voulais juste faire du sport. Alors Tulip s'est mise à courir. Les 8 kilomètres, langue pendue, son corps fuselé blanc et beige, avalant le parcours mètre après mètre. Au retour, il semblait cruel de ne pas lui donner au moins un peu d'eau. Alors nous nous asseyions ensemble sur le perron. Elle buvait un bol. Je buvais une bouteille. Ensuite, elle s'allongeait à côté de moi et posait sa tête sur mes cuisses. Je caressais ses oreilles, son museau grisonnant. Elle ressemblait à un genre de chien de chasse. Harrier, avait un jour marmonné Frances. En cherchant sur l'ordinateur de la bibliothèque, j'avais découvert qu'il s'agissait d'une race de chiens courants anglais de taille petite à moyenne. Tulip répondait à un grand nombre de ses caractéristiques. Poils courts, robe sable, pattes blanches et larges plages blanches sur le poitrail. Queue bien portée, oreilles tombantes, tête large et avenante. Tulip était clairement assez âgée, une grande dame qui en avait vu. Elle en aurait eu des choses à raconter, je me disais. Et je savais parfaitement ce qu'elle ressentait. Ce soir, Tulip était assise au milieu de la véranda couverte, à l'abri de la neige. C'était une chienne très patiente. D'après Frances, elle pouvait m'attendre là pendant des heures. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs jours. C'est le problème avec une chienne qui n'est pas votre chienne. Je ne savais pas où elle allait, ni même si elle avait une autre maison. Tantôt je la voyais tous les jours, tantôt 2 ou 3 fois dans la semaine. Voilà pour m'apprendre la patience à moi aussi. Elle frissonnait quand je suis arrivée à l'avant de la maison et je me suis tout de suite sentie coupable. « Il faut que tu arrêtes ça !» lui ai-je dit en tournant au coin de la maison et en la voyant se lever pour me faire la fête et fouetter de la queue. « Janvier, ce n'est pas une saison pour être sans abri à Boston. » Tulip m'a regardé, a poussé un petit gémissement. J'avais commencé à acheter des croquettes 5 mois plus tôt. Elle était tellement maigre, alors quand elle a continué à courir comme ça... 2 semaines plus tard, première visite chez le véto. Pas de puce, pas de tic, pas de dirofilariose. Le vétérinaire lui a fait des vaccins et m'a donné du Frontline avant d'établir une facture à côté de laquelle mon 22 avait l'air donné. J'ai payé, fait des heures supplémentaires, continué à courir avec la chienne qui n'était pas ma chienne, commencé à verser des croquettes dans une gamelle. J'en avais un sachet dans la poche. Je l'avais rempli quand Frances m'avait dit que Tulip attendait à la porte. Je l'ai déversé sur le sol de la véranda. Tulip s'est approchée avec gratitude. Elle me semblait amaigrie. J'ai découvert une nouvelle cicatrice près de sa cuisse, une déchirure à son oreille droite. À l'automne, j'avais mis des affichettes au cas où quelqu'un aurait perdu un chien. J'avais même dépensé un argent précieux pour passer une annonce dans le journal local. Un jour, j'avais appelé la fourrière, mais quand l'employé s'était montré trop curieux, j'avais paniqué. Je voulais juste savoir si Tulip avait un vrai chez elle, un endroit où on l'aimait, où on la regrettait et où elle aurait dû rentrer. Parce que c'était une situation que je comprenais. C'était la mienne. Mais je ne voulais pas qu'on l'embarque et qu'on la tue simplement parce qu'à un moment donné, elle était devenue son propre maître au lieu d'appartenir à quelqu'un. « Il te faudrait un manteau », lui ai-je murmuré en lissant ses oreilles en arrière et en grattant les gros replis de peau dans son cou. Elle s'est appuyée contre moi, collée à mes jambes, et j'ai de nouveau senti son corps frissonner. Moins 7, et s'abaisser encore. Je ne pouvais pas la faire rentrer parce que ma logeuse nous aurait tués toutes les deux. Mais je ne pouvais pas la laisser dehors, tremblante de froid. J'ai regardé combien d'argent liquide j'avais dans mon portefeuille, suffisamment m'a-t-il semblé. Alors j'ai regardé la chienne, qui n'était pas ma chienne, toujours appuyée contre moi. Les yeux fermés, elle soupirait d'épuisement et d'inquiétude après une mésaventure dont je ne saurais jamais rien. « Il faut que ça reste entre nous », lui ai-je dit avec gravité. J'ai hailé un taxi et nous sommes toutes les deux allées au travail. « 911, quel est l'objet de votre appel ?» Pas de réponse. J'ai regardé devant moi l'écran Annie Ali où les informations commençaient à s'afficher. « 911 » ai-je répété en changeant légèrement de position sur ma chaise de bureau. « Quel est l'objet de votre appel ?»« J'ai un gros cul », a dit une voix d'homme. J'ai soupiré, comme si on ne me l'avait jamais faite celle-là. « Je vois. Et ce fessier hypertrophié réside au 95 West Carrington Street ?»«
Oh, délire !» a fait la voix.
Rire derrière lui. Gloussement, pour être plus précise. C'est inévitable, me suis-je rappelé quand on fait les nuits. J'ai continué professionnel. Et est-ce que ce postérieur hypertrophié n'appartiendrait pas à Monsieur Edward Cage ?
Hey, comment vous savez ?
Êtes-vous au courant, monsieur, que lorsque vous composez le 911, vos noms et adresses s'affichent sur nos écrans ? Silence stupéfait.
Même pas vrai !
Apparemment, Monsieur Cage n'avait pas pris que de la bière ce soir. Et êtes-vous au courant que les appels abusifs à ce numéro sont un délit susceptible de vous conduire en prison ?
Cool.
Dites bonjour au gentil policier qui va sonner chez vous, Monsieur Ketch.
Ça marche.
Et souvenez-vous, voilà ce qui arrive à vos neurones quand vous vous droguez. J'ai coupé la ligne 1 et contacté un de mes agents pour qu'il fasse le nécessaire. Tous les appels au 911 exigent l'intervention d'un agent. D'où l'idée de délit. D'ici 3 à 5 minutes, Monsieur J'ai un gros cul ferait moins le fier. 1 heure du matin. Mes deux écrans restaient vierges, les lignes silencieuses. Pas une trop mauvaise soirée, mais on n'était que mercredi. En règle générale, le nombre d'appels allait croissant à mesure que la semaine avançait. Le vendredi et le samedi, c'était de la folie, une avalanche de querelles domestiques, d'atteintes à l'ordre public sous l'emprise de l'alcool et de conduites en état d'ivresse. Le dimanche, vers 17h, deuxième pic. On appelait ça l'heure fatale parce que c'était celle à laquelle la plupart des parents qui n'avaient pas la garde des 2,2 enfants était censé les ramener chez eux. Mais rien qu'à en juger par le volume d'appels, les parents en conflit prennent plus de plaisir à s'emmerder l'un l'autre qu'à se montrer des éducateurs responsables. À 17h01, on recevait le premier appel et un premier agent jouait au grand jeu hebdomadaire qui consistait à expliquer « Non, madame, vous n'avez pas le droit de lui tirer une balle dans les couilles parce qu'il a 2 minutes de retard. » Et bientôt, « Monsieur, l'accord sur le droit de visite est un document à valeur légale. Je vous suggère d'en prendre connaissance. » J'évitais autant que possible les dimanches. Les querelles conjugales mettaient tout le monde d'une humeur massacrante. Les requérants, mes agents, moi. Dans l'ensemble, la ville de Grosvenor et ses 25 000 administrés étaient tranquilles comparés à ce que j'avais connu à Arvada. Là-bas, je travaillais dans un grand centre qui traitait des centaines d'appels par heure. Mais aujourd'hui, il n'y avait que moi. Seule dans une pièce sombre avec la chienne qui n'était pas ma chienne. Je recevais généralement entre 10 et 40 appels par permanence. 10 une nuit comme celle-là, 40 le week-end. Le premier appel auquel je répondais tous les soirs, faux numéro. Le deuxième, Monsieur Gros Cul ou Monsieur Pepperoni Pizza à emporter, ou la dernière idée à la mode pour faire marrer une bande de gamins désœuvrés. Et oui, j'envoyais un agent en tenue à chacune des adresses. Et ce n'était pas moi qui avais écrit le règlement. Seul un tiers des appels au 911 concerne de véritables urgences. Le plus souvent, on me signalait un conducteur imprudent, un animal mort ou blessé sur la chaussée, de temps à autre des voisins bruyants. Les renseignements s'affichaient sur mon écran Annie Ali, Annie pour Automatic Number Identification, Ali pour Automatic Local Identification. Les appels passés depuis un téléphone fixe étaient les plus simples. Les noms, numéros de téléphone et adresses s'affichaient en un clin d'œil. Ceux passés depuis un portable ou via un opérateur Internet, Vonage par exemple, étaient automatiquement acheminés vers la police d'État pour qu'elle les localise, car ces numéros n'étant pas associés à une adresse physique, j'aurais eu du mal à y envoyer un agent. En plus de mon écran Annie Ali, je disposais d'un deuxième moniteur sur lequel j'entrais toutes les données recueillies au cours de l'appel. Circonstances d'un accident, signalement d'un intrus, n'importe quoi. Ensuite, je pouvais transférer ces informations directement de mon ordinateur au terminal informatique embarqué de l'agent dans sa voiture de patrouille. Une simple pression sur une touche, et boum, nous en savions autant l'un que l'autre. Si toutefois le logiciel ne plantait pas, si toutefois j'arrivais à jongler entre deux écrans tout en apaisant un interlocuteur en détresse, en lui posant toutes les questions pertinentes qui s'imposaient et en tapant toutes les réponses utiles. À part ça, c'était du gâteau. Mon écran Annie Ali s'est illuminé. Nom, numéro de téléphone, adresse postale se sont affichés. J'ai coiffé mon casque et appuyé sur le bouton. 911, quel est l'objet de votre appel ?
Je ne sais pas.
Une voix de femme cette fois, tremblante. Madame, vous avez besoin d'aide ?
Mon mari est en colère.
Je vois. Vous trouvez-vous à votre domicile, madame ? J'ai lu à haute voix l'adresse qui figurait sur mon écran. Elle a confirmé. Et comment vous appelez-vous ?
Dawn.
Elle ne m'a pas donné de nom de famille. Mon écran indiquait que le numéro était celui de Vincent Haynen. Dans l'immédiat, je n'ai pas insisté. Dawn, enchantée. Je m'appelle Charlie. Est-ce que votre mari est chez vous ?
Oui.
Sa voix se réduisait presque à un souffle. J'en ai déduit qu'il n'était pas loin. Est-ce qu'il y a des enfants dans la maison ?
Non.
Des animaux ? Des chiens ? Les agents aimaient bien être prévenus pour les chiens.
Non.
Je suis rentrée dans le vif du sujet. Est-ce qu'il a bu ?
Oui.
Un murmure maintenant. Dawn, est-ce qu'il est dans la pièce ? Puis, comme elle ne répondait pas tout de suite, j'ai moi-même baissé la voix. Est-ce que vous vous cachez ? Vous n'avez qu'à appuyer sur une touche du téléphone. Un bip pour oui. Deux bips pour non. J'ai entendu un bip et pris une grande inspiration. Ok. On avait les ingrédients d'un appel sérieux. À mes pieds, Tulip a remué. Comme si elle percevait ma tension, elle s'est assise. Dawn, vous avez peur de lui ? Bip. Tout en restant à son écoute, j'ai ouvert la radio. 461 à 926. Le 926, à savoir l'agent Tom McCarrett, m'a répondu 926 à 461. 461 à 926. J'ai une femme au bout du fil, lui ai-je indiqué dans la foulée. Elle dit que son mari est en colère, qu'il a bu, qu'elle a peur de lui. 926 à 461. Adresse du requérant ? 461 à 926, je transfère. J'ai complété ma fiche avec les maigres données recueillies jusque-là et je les ai envoyées au terminal embarqué de l'agent McCarrett. 461 à 926. La requérante dit qu'ils sont chez eux, pas d'enfants ni d'animaux sur place. 926 à 461. Pouvez-vous recueillir plus de détails ? Signalement des deux personnes. Est-ce que l'homme est armé ? Est-ce qu'il a pris de l'alcool ? De la drogue ?
Sans blague, Sherlock, ai-je eu envie de dire.
Mais notre dialogue radio et l'appel au 911 étaient enregistrés pour la postérité, alors je m'en suis tenu au texte. 461 à 926, compris. Retour à ma correspondante, qui gardait un silence inquiétant. Dawn, c'est Charlie. Toujours là ? Bip. Bon, le contact était rétabli. Je me suis rapprochée de mon écran de prise de notes et j'ai rajusté mon casque. J'entendais mieux la femme, le souffle court de sa respiration en détresse. Elle essayait désespérément de ne pas faire de bruit. « Dawn, vous êtes dans la chambre ? » ai-je demandé posément pour qu'elle continue à communiquer. Nouveau bip. « Vous êtes enfermée dans la salle de bain ?» Deux bips. Deux bips, c'était non. J'ai visualisé une chambre, fait une nouvelle tentative. « Dans le placard ?» Bip. J'ai misé sur le plus probable dans une maison de style colonial en Nouvelle-Angleterre. « Votre chambre se trouve à l'étage ?» Bip. J'ai ajouté ces détails au résumé de l'appel et poursuivi. « Est-ce que votre mari est armé ?» Silence. Ni oui ni non. Est-ce que ça voulait dire peut-être ? J'ai fait en sorte de clarifier ce point. « Dawn, Madame Haynen, est-ce que ça veut dire que vous ne savez pas si votre mari est armé ou non ?» Bip. « Mac Kerret va adorer », ai-je murmuré à Tulip, qui, assise droite comme un piquet, ne me quittait pas des yeux. Situation inconnue, le type d'intervention le plus fréquent et le plus dangereux pour un agent. J'ai repris la radio, contacté le 926 et fourni les quelques renseignements complémentaires. La requérante était dans la chambre au premier, le mari à portée de voix était potentiellement armé. Drogue ? L'agent Mac Kerret insistait parce qu'un mari ivre n'est pas une partie de plaisir, mais un cocaïnomane ou un type accro à la meth est encore pire. Non seulement on ne peut pas le raisonner, mais il est insensible à la douleur. Ça rend les agents nerveux. J'ai repris contact avec Dawn Haynen. Dawn, votre mari prend de la drogue ? Bip. Rien pour me surprendre. J'ai complété le résumé. Est-ce qu'il en a pris ce soir ? Silence. Vous ne savez pas s'il a pris de la drogue ce soir ? Bip. Mes doigts se sont figés sur le clavier et j'ai fermé les yeux, sentant monter la tension. Ma mission consistait à recueillir des informations. J'étais les yeux et les oreilles de l'agent Mac Kerret. Que je fasse bien mon boulot et il affronterait la situation en connaissance de cause. Que j'échoue et un agent isolé approcherait une maison plongée dans le noir à 1h30 du matin, sans pouvoir compter sur autre chose que sa vitesse d'analyse pour le sauver. J'ai repris la radio. 461 à 926. La requérante dit qu'elle ne sait pas si le mari est armé, ni s'il a pris de la drogue ce soir, mais il en a pris par le passé. 926 à 461, compris, a répondu l'agent Mac Kerret. Dans ces mots, j'ai senti le poids de sa déception. Il comptait sur moi et je le laissais tomber. Il m'a notifié qu'il se trouvait à une rue de l'adresse. Il coupait sirène et gyrophare. Autrement dit, je ne lui avais pas fourni suffisamment d'informations. Il allait donc approcher discrètement pour évaluer la situation par lui-même. « Allez, Dawn, » ai-je dit tout bas. « Il faut qu'on fasse mieux. Pour nous tous. » Je suis retournée à ma requérante et j'ai écouté son souffle court en tendant l'oreille pour guetter d'autres bruits derrière elle. Un mari qui appellerait sa femme ? Du verre brisé par un homme en proie à une crise de rage ? Ou peut-être même des coups frappés à la porte d'entrée qui signaleraient l'arrivée de l'agent Mac Kerret ? Je n'entendais rien. « Dawn, votre mari est toujours dans la pièce ?» Bip. Un agent arrive. Il sera là d'une minute à l'autre, Dawn. On vient vous aider. J'ai hésité, embarrassé. Normalement, ma tâche suivante consistait à établir un signalement de l'agresseur. Comme ça, en cas de fuite, l'agent Mac Kerret pourrait l'identifier et se lancer à ses trousses. Mais je ne voyais pas comment entamer une telle conversation à coups de bip. La tension à nouveau. Mes épaules crispées. Une douleur sourde qui montait dans ma nuque. L'agent McKerrett devait être arrivé à l'adresse. Il ouvrait sa portière, observait la maison, essayait de se faire une idée de la situation.
« Dawn, votre mari est toujours en colère ?»«
Bip. »«
Alors qu'est-ce qu'il fabrique ?» ai-je eu envie de crier. « Comment un homme fou de rage peut-il ne faire aucun bruit ?» Et là, en un éclair, j'ai su. J'ai visualisé exactement le genre d'homme en colère qui pouvait se tenir parfaitement silencieux, parfaitement immobile devant une porte de placard. J'ai empoigné la radio. « 461 à 926 » ai-je pratiquement hurlé. « Ne sonnez pas à la porte ! Ne vous approchez pas ! Arrêtez-vous immédiatement !» Un temps. Je n'entendais plus Dawn, juste ma propre respiration haletante.
« 926 à 461 !»
L'agent McKerrett est revenu sur les ondes, et sa voix était aussi froide que la mienne avait été survoltée.
« 595 ?»
595 était un code entre nous. Les numéros correspondaient aux lettres KZK sur le téléphone. Kezako. Et, dans ce boulot, il faut avoir de l'humour. J'ai pris une grande inspiration.
461 à 926. Ne quittez pas.
Dawn, ai-je ensuite murmuré dans mon micro. Est-ce que votre mari aime la pizza? Silence. Puis un bip. Puis le premier bruit que j'entendais depuis un moment. Dawn, qui sanglotait. « Encore une minute, Dawn, » l'ai-je encouragé. « Tenez le coup pour moi, rien qu'une minute. » Vite, j'ai rentré le nom de Vincent Haynen dans l'ordinateur et trouvé un deuxième numéro, un portable à son nom. Croisant les doigts, j'ai pris mon téléphone à carte prépayée et composé ce numéro. Pas une manœuvre qu'on vous enseigne dans les manuels, juste un truc qui, dans ce boulot, vous vient d'instinct. Pendant un instant surréaliste, j'ai entendu sonner en stéréo. Mon portable qui sonnait à mon oreille. Celui de Vincent qui sonnait dans la chambre. Une fois. Deux fois. Trois fois. J'étais cramponné à mon téléphone. Alors ma radio a crépité.
926 à 461.
Silence ! J'ai lancé au moment même où le mari de Dawn entrait en communication avec mon portable.
Quoi ?
A-t-il dit. Un seul mot, lourd de menaces, de dangers, et de cette colère glaciale qui faisait sangloter sa femme en silence dans le placard de leur chambre.
« Hé, mec !» j'ai répliqué. « Vous la voulez, votre pizza, oui ou merde ? Parce que j'en ai ras-le-bol de poireauter. Ça fait 5 minutes que je sonne chez vous. On va débiter votre carte de crédit, que vous la preniez ou non. Alors venez la chercher ou je la bouffe moi-même. »
J'ai brutalement raccroché et repris mon casque.
« Tête de nœud !»
ai-je entendu marmonner le mari de Dawn devant la porte de placard. Et puis, enfin du mouvement. Une porte qu'on ouvrait au loin. Des pas lourds. Avec un temps de retard, j'ai attrapé la radio.
« 461 à 926, vous êtes le livreur de pizza. Je répète, vous êtes le livreur de pizza. L'individu est très probablement armé et il sera là dans 5, 4, 3, 2... « Merde !»
a hurlé une voix d'homme dans la radio.
« Police !» a crié l'agent McKerrett. « Les mains en l'air ! Les mains en l'air !»
Écho de bagarre, choc sourd, un autre cri. Je me suis levée, c'était plus fort que moi. J'ai agrippé mon casque, fermé les yeux très fort au milieu de mon standard sombre, comme si ça pouvait aider mon agent. Lui donner en quelque sorte le dessus. Tulipe s'est mise à geindre. Je me suis mordu la lèvre.
Puis, 926 à 461 !
L'agent McKerrett... hors d'haleine.
Individu maîtrisé. Individu désarmé.
Puis, et ça ne figurait pas dans le script,
il avait un Glock 9. Mais comment tu l'as su? Putain, Charlie! Putain!
J'ai fermé les yeux. C'était ce que j'avais imaginé. Ce que j'avais su, tout simplement. Que le mari de Dawn était planté là, de l'autre côté de cette porte de placard, à attendre sa femme avec une arme chargée. Et qu'à l'instant où un tiers arriverait, où des sirènes retentiraient, où un agent en tenue sonnerait chez eux, voilà ce qu'il attendait, ce cher Vincent. L'ultime provocation qui justifierait qu'il tire. L'agent McKerrett a repris sa radio. Il avait retrouvé son sang-froid et en revenait au texte. J'ai fait de mon mieux pour suivre son exemple.
926 à 461. Est-ce que je peux rentrer dans la maison sans danger ? J'ai repris mon casque.
Dawn, c'est Charlie. Un agent en tenue se trouve devant chez vous. Il a maîtrisé et désarmé votre mari. Vous pouvez sortir maintenant. Alors, pour la première fois depuis le tout début de l'appel, le vrai son de sa voix. Est-ce qu'il va bien ? L'agent de police ou votre mari ? Même si, malheureusement, je connaissais déjà la réponse à cette question.
Mon mari,
a-t-elle répondu hésitante.
Vous savez quoi, Dawn ? Pourquoi vous ne descendriez pas voir ça par vous-même ?
D'accord. D'accord. Je crois que je peux le faire. Charlie ?
J'ai attendu, mais elle ne m'a pas remercié. Rares sont ceux qui le font. Dawn a raccroché. Elle est allée voir comment allait son ivrogne de mari qui, 5 minutes plus tôt, avait été sur le point de la tuer. Et je me suis rassise, la main sur la tête de Tulipe, et j'ai caressé ses oreilles soyeuses.
« Contente que tu sois là, ma fille, » j'ai murmuré. « Contente que tu sois là. »
Elle a posé son museau grisonnant sur mes genoux et j'ai continué à lui caresser la tête jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler et que nous soyons toutes les deux assises dans le noir en silence. On pourrait croire que j'avais eu ma dose pour la nuit, mais non. À 2h33 est arrivé l'autre appel important. J'ai lu les infos sur l'écran Annie Ali et je me suis immédiatement inquiétée. Puis je me suis redressée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. « Coucou !» ai-je dit, un peu surprise de recevoir cet appel par le canal officiel plutôt que sur mon portable. Silence d'abord, si prolongé, que j'ai cru que mon interlocuteur ne pouvait pas répondre. Mais ensuite, enfin, une voix. Fluette. Tremblante. Apeurée. La fille, donc, pas le garçon. Trop jeune pour se souvenir de mon numéro de portable, elle réutilisait celui de notre premier contact. 911. Elle pleurait et je n'avais pas besoin qu'elle parle pour savoir pourquoi. Nous, les opérateurs, nous n'intervenons pas seulement comme soutien des policiers en tenue. Nous sommes la version téléphonique des services sociaux. La première oreille que trouvent les femmes battues, les jeunes parents débordés, les ados ivres et les enfants terrifiés. Nous entendons de tout. Ensuite, nous transférons l'appel et nous passons à autre chose. Pas notre problème. Nous ne sommes que les messagers du fait que, oui, la vie est vraiment dégueulasse. Mais maintenant, dites-moi un peu. S'il ne vous restait que 4 jours à vivre, que feriez-vous ? Vous resteriez sur le banc de touche ? Ou vous rentreriez sur le terrain ? Et si, admettons, vous veniez de passer 1 an à apprendre à courir, à vous battre, à tirer, à agir au lieu de subir, est-ce que ça changerait la réponse ? Et si, admettons encore, vous aviez personnellement connaissance d'un de ces crimes contre lesquels le système est impuissant, dont le coupable ressort gagnant et la victime perdante, est-ce que ça changerait la réponse ? J'avais passé des mois à méditer cette question, et désormais ma décision était prise. Ça m'était utile au moment de pianoter sur mon clavier, d'enfreindre délibérément la loi en déconnectant mon correspondant du système d'enregistrement pour prendre la communication sur mon portable Walmart à carte prépayée. « Coucou !» j'ai répété. « Tout va bien. C'est moi, Charlie. Je vais t'aider. Plus qu'une journée, ma belle, et on ne te fera plus jamais de mal. »